Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui décrypte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa formule, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons le président du conseil de surveillance de l'entreprise Mobilitas, Alain Taïeb. Bonjour Alain Taïeb.
Bonjour.
Alain Taïeb, vous dirigez ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Vous nous direz plus tard dans l'émission ce que c'est exactement. Mais elle a la particularité qu'elle a fêté tout récemment son installation dans un 54e pays africain. Et votre métier, votre cœur de métier, c'est le déménagement international. Nous allons en parler bien sûr dans cette émission. Mais d'abord, un petit aperçu de votre parcours avec un mot sur la Tunisie, le pays où vous êtes né. Quand l'avez-vous quitté et quel lien gardez-vous avec lui? Je vois un sourire, donc ça ne doit pas être un mauvais souvenir.
Non, même un très bon souvenir, merci. Effectivement, je suis né en Tunisie et nous avons quitté ce pays en 1966. Donc j'avais à peine 12 ans, donc j'ai des souvenirs d'enfance très très intéressants et une vie absolument admirable avec des générations de ma famille qui étaient dans ce pays. Et donc nous avons quitté la Tunisie pour aller nous installer à Strasbourg puis à Paris. Donc voilà, c'est un mouvement classique comme des centaines de milliers de familles françaises d'Afrique du Nord dans ces années-là.
Et quel lien gardez-vous avec lui aujourd'hui ?
Bah, la Tunisie ayant, je dirais, une position assez particulière depuis plusieurs décennies, est un pays très accueillant, très agréable, qui n'a pas connu, je dirais, une indépendance dure comme d'autres, eh bien, effectivement, était très agréable d'y retourner en vacances, bien évidemment, pour revoir un certain nombre d'endroits.
D'amis.
D'amis, bien sûr, beaucoup qu'encore présents sur place, et puis surtout des lieux, notamment des cimetières où on a nos ancêtres qui sont enterrés, ma grand-mère, mon grand-père, etc. Donc effectivement un lien particulier avec ce pays aujourd'hui encore.
Alors vous le disiez, votre famille s'est établie à Strasbourg et c'est là que vous vous êtes formé. Vous êtes devenu ingénieur chimiste.
Alors effectivement, c'était à Paris ensuite. Donc on est resté quelques années à Strasbourg, puis à Paris. Donc j'ai fait des classes préparatoires, une école d'ingénieur en génie chimique à Nancy. J'ai exercé quelques années dans le métier pour lequel j'étais formé. Et très rapidement ensuite, mes parents ayant une petite entreprise familiale qu'ils avaient créée.
Qui était une entreprise de
déménagement. J'ai rejoint l'entreprise pour essayer de lui apporter un peu de jeunesse, un peu d'énergie, un peu d'international. Et donc c'est là que l'aventure internationale de notre groupe a commencé.
Et qu'est-ce qui, dans la formation d'ingénieur chimiste, a bien pu vous prédisposer, vous préparer à des fonctions de directeur ou de président d'une entreprise comme celle que vous dirigez aujourd'hui?
Sur le plan scientifique et technique, rien. Mais sur le plan de la culture générale, à partir du moment où vous avez fait des études supérieures et que vous avez un bagage, vous êtes transposable à toutes sortes d'activités, à toutes sortes de situations. Parce que l'université, les grandes écoles vous donnent d'abord un niveau de culture générale et une boîte à outils qui vous permet effectivement... La plupart des ingénieurs qui réussissent leur carrière ont quitté à un moment donné le métier d'ingénieur. On les retrouve dans les directions d'entreprise à faire du management. C'est que vraiment le scientifique ingénieur qui va rester jusqu'au bout de son métier, jusqu'à sa retraite. Mais la plupart de ceux qui évoluent vite en carrière vont vers des positions de manager.
Alors au cours de cette émission, nous allons bien sûr parler de votre entreprise Mobilitas, des défis économiques et industriels qu'elle doit relever, mais aussi des économies africaines que vous connaissez très bien et de la manière dont vous envisagez la situation économique internationale. Première question de Frédéric Maury de Jeune Afrique.
On va commencer par parler de Mobilitas, votre entreprise qui n'est pas forcément extrêmement connue, même si j'imagine que la plupart des auditeurs africains ont déjà vu en fait ces camions se balader. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait votre entreprise? Et puis notamment parler aussi un petit peu d'un de ces métiers qui est encore moins connu, qui est la numérisation des archives.
Alors effectivement, Mobilitas d'abord est le nom de la holding, de la maison mère, et les marques qui sont connues ne sont pas forcément celles-ci. Nous avons pendant 40 ans opéré sous la marque AGS, Déménagement International, qui elle est très connue, effectivement.
Qui veut dire AGS?
En fait, AGS, c'est l'entreprise initiale que mes parents avaient créée, donc, dont je parlais tout à l'heure et que j'ai rejointe.
Mais le sigle
voulait dire Alain, Gilles et Serge, donc le nom des trois garçons. On avait une sœur, mais je sais pas pourquoi. Peut-être encore un peu dépoussiérage, mais bon, on pouvait pas mettre quatre initiales, mais c'était effectivement au départ Alain, Gilles et Serge. Donc cette marque est connue. Si vous voyagez en Afrique, vous verrez pas la marque Mobilita sur des camions ou sur les publicités d'Air France ou dans des brochures. Par contre, les gens qui bougent, qui ont une mobilité professionnelle sur le continent africain, nous connaissent très très bien sous cette marque. Ça, effectivement, c'est le premier métier, celui qu'on exerce depuis très longtemps. C'est un métier de logistique, un métier de transport adressé à des particuliers qui ont des choses sensibles à bouger, des patrimoines familiaux. Mais nous avons très vite évolué vers d'autres métiers de la logistique et du transport. Et le métier de l'archivage physique et numérique est un métier de logisticien et de transport, puisqu'on transporte des archives d'entreprises ou d'institutions ou de musées d'un endroit à l'autre. On doit les protéger, les garder longtemps dans des infrastructures et les livrer. Et on a évolué vers ce métier de logisticien naturellement et on est devenu aussi un acteur très important de l'archivage physique et numérique dont on parlera, je crois, après, sur le continent africain et en France également, bien sûr.
Alors, vous êtes une entreprise, Jean-Pierre le disait tout à l'heure, une ETI. Donc, une ETI, c'est une entreprise de taille intermédiaire, c'est ça, dans le jargon français. Qu'est-ce que ça signifie à peu près en termes de taille de revenus, de nombre d'employés, de présence dans le monde?
Alors, c'est un statut qui n'existait pas. Et effectivement, ces entreprises ne sont pas des grands groupes, ne sont plus des PME. Et leur statut a été défini il y a à peu près une dizaine d'années maintenant. Et donc, en fait, ce sont des entreprises qui ont plusieurs milliers de salariés, qui ont un haut de bilan qui dépasse les 50 millions d'euros, qui ont des chiffres d'affaires qui dépassent
des fonds propres, oui.
Donc c'est un peu notre cas, hein. Nos fonds propres dépassent 150 millions d'euros, notre chiffre d'affaires avoisine les 400 millions, et effectivement nous avons 4300 salariés.
Et la part de l'Afrique là-dedans, c'est...
Alors la part de l'Afrique aujourd'hui, ça représente pas loin de 60% maintenant sur l'ensemble du groupe, hein.
De vos revenus.
Donc, du chiffre d'affaires.
Donc, entre, ouais, 150 et même, oui, 200 millions, voilà. Plus de 200 millions. Donc en fait, finalement, pour beaucoup d'économies africaines, ce serait plutôt un grand groupe qu'une entreprise de taille intermédiaire.
Alors à l'échelle, effectivement, de taille des entreprises dans chaque pays, effectivement, on pourrait être considéré comme cela. Mais vis-à-vis de la France, puisque le siège de l'entreprise est français, que les propriétaires de l'entreprise, notre famille, sont français, effectivement, nous sommes une ETI. Nous rentrons dans ce groupe qui comprend entre 4000 et 6000 entreprises en France de cette taille, qu'elles soient de services comme la nôtre ou industrielles, des sociétés qui font entre 100 millions, 200 millions de chiffre d'affaires et jusqu'à 2 milliards pratiquement. Hein.
Pourquoi avoir donné cette importance au marché africain? Pourquoi avoir choisi de vous déployer sur ce continent plutôt que sur d'autres?
Je pense que l'une des particularité de l'entrepreneur, en règle générale, où qu'il soit et dans quelques métiers qu'il exerce, c'est effectivement d'être un peu visionnaire et d'être un peu précurseur. Donc il faut aller là où des gens ne sont pas encore allés, on est un peu explorateur. Donc effectivement, l'Afrique était un peu négligée dans le métier que nous exercions, qui sont des métiers dominés par l'économie américaine, c'est-à-dire les gens qui bougent dans le monde depuis des décennies sont des gens qui bougent d'est en ouest, au gré des puissances économiques que nous connaissons, les États-Unis, l'Europe, l'Asie. Et donc les mouvements de population nord-sud n'intéressaient pas grand monde parmi nos acteurs, et étant arrivés tard sur ces marchés, ayant aussi une fibre africaine, rappelons-nous quand même que nous sommes nés.
Tard, ça veut dire quelle période? Alors,
on a commencé à faire l'Afrique il y a à peu près 25 ans, en 92 avec la Côte d'Ivoire. Et donc effectivement, on s'est aperçu très rapidement que les services qui étaient proposés aux dizaines de milliers de familles qui bougeaient dans ce continent pour des raisons professionnelles n'étaient pas à la hauteur de ce que l'on pouvait avoir en Europe, en Asie, aux États-Unis. Donc très rapidement, on s'est aperçu que notre savoir-faire était bien reçu et bien apprécié. Et à partir de là, quand vous voyez effectivement que vos produits sont bien appréciés, vous n'avez plus qu'à appuyer sur l'accélérateur.
C'est une entreprise familiale, on le disait tout à l'heure. Vous parliez de vos deux frères, ça, vous êtes trois frères, et puis de votre sœur. Est-ce que tout le monde travaille toujours dans l'entreprise?
Oui, alors effectivement, on vieillit un petit peu depuis. La troisième génération est rentrée dans la danse, puisque mon neveu Cédric Castro, le fils de ma sœur Joël, a pris la présidence du directoire. Donc c'est lui qui maintenant dirige de façon opérationnelle l'entreprise, et les frères et sœurs qui font partie de la deuxième génération, puisque ce sont mes parents qui ont créé l'entreprise. Donc on a la troisième génération qui est maintenant aux affaires. La deuxième génération est en train de laisser un peu d'air à la troisième. Et donc on travaille effectivement, mais non plus de façon opérationnelle. Voilà, on ne fait plus nos 80 heures par semaine, si c'est ce que vous voulez savoir.
Vous en faites combien ?
Écoutez, moi j'en dois en faire encore 60.
C'est modeste.
C'est modeste, oui.
Alors, vous communiquez en ce moment beaucoup sur votre maillage africain, sur le fait que vous soyez implanté dans un 54e pays africain. Je crois que c'est les Seychelles. C'est pas un gros marché. Pourquoi être si fier d'être implanté dans tous les pays africains ?
Alors, on est fier d'abord parce que ce n'est pas facile à faire, et peu de gens l'ont fait, et presque personne, pour ne pas dire personne. Je dirais, même quand je discute avec des amis de la diplomatie française, ils me disent, Alain, même l'État français n'a pas 54 ambassades dans 54 pays. Donc, effectivement, ce que nous avons fait, c'est un travail de longue haleine, et donc on est les seuls, des grands groupes beaucoup plus gros que nous, n'ont pas encore, effectivement, sont pas encore implantés dans tous les pays. Alors on a de belles entreprises comme le groupe Bolloré ou la CGM-CMA qui sont sur cette voie, qui ont une dynamique et qui en sont très proches, qui sont à 48 pays, 50 pays. Donc on voit bien quand même que cette vision panafricaine n'est pas quelque chose qui nous est exclusif. On a beaucoup d'entrepreneurs de taille importante ou de grande taille qui ont compris effectivement la pertinence de ces marchés, l'avenir qui s'ouvre devant nous tous, et ont déjà emboîté le pas. Alors on a voulu être les premiers, on a appuyé sur l'accélérateur sur les 5-6 derniers pays qui restaient, la Corne de l'Afrique, les Seychelles.
Et est-ce que ça répond à une logique particulière, ou c'est juste quelque part un peu pour l'affichage d'être dans ces 54 pays-là?
Ah, effectivement, quand vous connaissez le continent africain, vous n'allez pas comparer le marché de la RDC ou du Nigeria, de l'Afrique du Sud, avec celui des Seychelles ou du Cap-Vert. Donc, je veux dire, en termes de gestion optimale de vos ressources, et si vous êtes peut-être un entrant sur le territoire tardif, vous allez plutôt commencer par les 10 poids lourds ou les 15 poids lourds. Mais on y était déjà depuis très longtemps. Alors pourquoi cet acharnement à être dans les 54 pays ? Eh bien parce que d'abord nos produits et nos services fonctionnent bien partout, sont bien perçus de partout. Il y a un vrai besoin d'accompagnement de mobilité dans tous les pays africains, et il y a un besoin de protéger, de gérer, de numériser les archives des entreprises, des organismes internationaux et des États. Ce besoin, il faut le satisfaire dans un petit marché ou dans un gros marché. Et puis, il y a des acteurs globaux. Quand vous voulez travailler avec des agents américains ou hollandais ou britanniques, le fait que vous puissiez leur dire, écoutez, si vous avez des besoins à satisfaire en Afrique, quel que soit le pays, vous nous trouverez là pour vous servir selon le même cahier des charges, c'est extrêmement puissant. Plutôt que de dire à des gens, je peux vous servir en Afrique dans tel ou tel pays, mais pas dans tel ou tel pays, sur le plan marketing, effectivement, ça n'a pas le même poids. Aujourd'hui, on n'a pas à se poser de questions. Si vous avez un besoin dans 10, 15 ou 20 pays à gérer vos expatriés ou à mettre en place la gestion de vos archives ou de vos numérisations, vous n'avez pas besoin de savoir si on y est ou on n'y est pas. Notre communication est basée sur le fait qu'on est de partout.
Vous travaillez en Libye ou en Somalie, du coup, j'en déduis. Oui. Comment est-ce que vous voyez, puisque vos équipes sont sur le terrain tous les jours pour faire ces déménagements, comment est-ce que vous voyez ce risque terroriste qui s'est énormément accru depuis une dizaine d'années, à la fois dans la bande sahélienne, aussi dans la Corne de l'Afrique ?
Je pense que il n'y a pas de pays où on s'est retiré, sauf en Libye, où même notre partenaire libyen a dû aller s'installer de l'autre côté de la frontière en Tunisie et mener les opérations depuis l'autre côté. Donc là, c'est le pays extrême, effectivement, où on a maintenu nos activités, mais en faisant comme des centaines de milliers de Libyens, en nous installant de l'autre côté de la frontière. Donc on a toujours exercé au Mali, en Égypte, dans des situations de crise qui ont évolué en Égypte et en Tunisie. On a toujours eu nos structures qui étaient opérantes. Alors bien évidemment, on est perturbé parce que les éléments de sécurité concernent tout le monde. Nos cadres aussi peuvent avoir quelques craintes, mais la plupart d'entre eux sont toujours restés, et nos clients aussi. Alors on a assisté, dans l'exemple du Mali, on a effectivement assisté à des départs très très importants qui ont pu faire nos affaires pendant la vague de départ. Mais après, c'est plus rien. Donc, effectivement, l'année suivante, l'activité se tasse. Et on voit, nous, on est un acteur quand même intéressant parce qu'on voit les reflux. La Côte d'Ivoire, par exemple, après les 10 années de guerre, on voit le nombre très, très important de conteneurs que nous livrons à l'import. Nous avons une activité d'importation énorme. Les gens arrivent. Et donc, les gens repartiront dans 2 ou 3 ans. Donc, on est là quand même.
Vous êtes un baromètre de l'attractivité des pays.
De l'attractivité des pays au sens large, qu'elles soient liées à des situations économiques ou à des situations politiques ou d'instabilité. On voit sur les intérêts français, par exemple, en Afrique, certains désinvestissements, malheureusement, et des Brésiliens qui viennent effectivement dans certains pays faire des travaux à la place.
Justement, des gens qui bougent, qui déménagent, qui vont d'un pays à l'autre, c'est votre activité, c'est un peu la traduction humaine de la mondialisation. Votre entreprise, d'après ce que vous dites, est un très bon baromètre de cette mondialisation et de l'insertion, en particulier du continent africain, dans cette mondialisation. À quel niveau est-ce que vous la jaugez, vous l'estimez aujourd'hui, cette insertion du continent africain dans la mondialisation ?
Effectivement, on peut faire un parallèle entre le mouvement des hommes, le mouvement des capitaux, le mouvement des produits et l'économie. C'est complètement lié, nécessairement. Beaucoup d'entreprises africaines commencent à devenir aussi internationales dans le sens qu'elles vont vendre leurs produits ou s'installer sur des pays limitrophes. Quand on est en Afrique, on n'a plus une politique de développement commercial qui est basée uniquement sur le pays. Si on est au Sénégal, si on est en Côte d'Ivoire, la sous-région, les pays limitrophes intéressent les entrepreneurs. Donc on est déjà dans cette dynamique internationale. Les Africains eux-mêmes ou les entreprises occidentales installées en Afrique ont cette vision d'expansion. Donc nous, on voit bien dans nos activités, un tiers des déménagements que nous effectuons en Afrique sont à l'intérieur de l'Afrique. Autrement dit, on prend un cadre français, africain ou américain d'un pays d'Afrique et on l'envoie dans un autre pays d'Afrique. Et d'où d'ailleurs, pour revenir à votre question sur les 54 pays, la puissance de cette implantation, parce que on peut maîtriser une opération des Comores vers l'Afrique du Sud, du Zimbabwe vers le Maroc, en ayant une maîtrise totale de toute la chaîne logistique. Un tiers donc à l'intérieur du continent africain, un tiers sur l'Europe et un tiers le reste du monde. Donc voilà à peu près les mouvements que nous voyons et on peut retrouver effectivement...
C'est-à-dire entre le reste du monde et l'Afrique, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, c'est ça. D'accord. Le reste du monde d'Afrique, c'est un tiers des mouvements.
Donc ça va être quoi, comme il y a des pays en particulier ? Vous parliez du Brésil.
États-Unis, bien sûr, mais le Brésil, beaucoup, quelques pays d'Asie maintenant.
La Chine, pas trop, non ?
Alors la Chine, malheureusement, les gens ne déménagent pas parce qu'effectivement, on a affaire quand même à une économie qui est, je dirais, plutôt étatique. Et ce sont presque des civil servants, des fonctionnaires qui partent, donc en ordre de marche. Donc on n'a pas affaire à la même population.
Pourtant, il y a beaucoup de petits commerçants chinois qui s'installent en Afrique.
Oui, alors donc il y a toute une histoire là-dessus. On pourrait faire une émission complète sur les commerçants chinois qui s'installent en Afrique, qui sont souvent venus d'ailleurs pour des travaux et qui sont restés.
Ouais.
Et
mais ça, c'est une population, une clientèle qui vous échappe.
Qui n'a pas de mobilité pour l'instant. Ce commerce chinois, dans 10, 20, 30 ans, va peut-être donner lieu à de très belles entreprises qui vont se développer et qui vont rejoindre les mouvements des autres.
Parlons un peu de la situation économique africaine, puisque pendant 10-15 ans, il y a eu un boom que tout le monde connaît, dont tout le monde parle maintenant, un boom économique avec une croissance très forte de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. Et puis là maintenant, depuis 2 ans, on parle d'un ralentissement très net, avec des statistiques qui prouvent un très net ralentissement. Est-ce que vous, votre entreprise, est impactée par ça ? Est-ce que vous voyez ce phénomène ?
On est là pour le très long terme en Afrique. Donc effectivement, ces courbes, on les vit. On peut avoir des années creuses. Et il y a un petit ralentissement en ce moment. Vous avez raison. Dénote par rapport à tout ce qui se dit depuis quelques années sur l'Afrique. Mais pour nous, c'est quelque chose de provisoire. Ce sont des situations sur lesquelles on ne démobilise pas du tout. Et on construit notre avenir sur l'Afrique sur les 10, 20, 30 ans à venir. Donc oui, aujourd'hui, nous avons quelques douleurs dans quelques pays. Et globalement...
Lesquelles ?
Je dirais que le Nigeria, c'est très difficile. L'Angola, les pays pétroliers, bien évidemment, sont complètement touchés par la baisse des cours du pétrole. Et nécessairement, les sociétés mutent moins de cadres, mettent en stand-by leur exploitation ou les ralentissent. Donc, il y a beaucoup moins de gens qui bougent. L'économie de ces pays souffre énormément aussi.
Alain Taïeb est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous poursuivons cette conversation intéressante dans quelques minutes après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans sa formule grand invité de l'économie, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous recevons Alain Taïeb, le président du conseil de surveillance du groupe Mobilitas, spécialisé dans le déménagement international. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons évoqué votre parcours, Alain Taïeb. Nous avons vu que votre activité de déménageur international pouvait servir de baromètre à la mondialisation, à l'insertion de l'Afrique dans la mondialisation. Alors, en ces périodes où l'économie mondiale est confrontée à une vague de protectionnisme, en particulier des États-Unis. Je voulais d'abord vous demander si cette politique économique que le président Donald Trump est en train de mettre en place vous semble être une menace à la fois pour votre activité et pour l'économie africaine.
Je ne pense pas réellement qu'à ce stade et aujourd'hui, des conséquences peuvent être ressenties sur le continent africain. Et puis on n'arrive pas vraiment encore bien à lire ce qui va se passer réellement sur le plan de l'économie, sur le plan de la mobilité des hommes et des femmes, même s'il y a quelques petits flashs. Aujourd'hui, on ne sent rien. Et de toute façon, les États-Unis ont toujours eu, vis-à-vis de l'Afrique, une politique extrêmement positive et sont désireux de que ce continent se développe de façon importante. Donc je ne vois pas en quoi le changement de présidence depuis des décennies aux États-Unis pourrait affecter ce lien particulier qu'il a avec l'Afrique et puis sa population, une partie de la population qui vient de ce continent.
Et sans parler de l'Afrique spécifiquement, d'un point de vue global, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un phénomène dont Trump fait partie de démondialisation qui est possible après une forte accélération et que des entreprises comme les vôtres, qui sont quand même dans les flux entre les pays, risquent d'être affectées par ce phénomène à moyen terme?
Si on pousse à l'extrême et qu'on passe dans un protectionnisme qui sera évidemment nuisible pour tout le monde, bien évidemment, si les gens restent chez eux avec leurs usines et produisent chez eux pour leur propre marché, il n'y a plus de déménagement international. Donc voilà, si on va à l'extrême...
Et vous y croyez? Vous pensez que c'est
possible? Pas du tout. Je n'y crois pas un seul instant. Évidemment, il peut y avoir effectivement des négociations et des effets de manche, etc., pour essayer d'obtenir tel ou tel avantage. Mais aujourd'hui, il est absolument impossible, de façon sérieuse et à long terme, de vivre enfermé à l'intérieur de ses frontières et de produire localement uniquement et de ne consommer que localement uniquement. Ça n'a pas de sens.
De quelle manière contribuez-vous, Alain Taïeb, au développement des pays africains dans lesquels vous êtes installé?
Alors là, effectivement, je pense que c'est fondamental. C'est ce qui nous plaît dans ce projet aussi. On s'est installé, on vient de racheter une entreprise en Hollande, on s'est installé en Belgique, on est installé dans les pays d'Europe centrale. Bon, mais l'Afrique, c'est bien particulier parce que les enjeux sont énormes. Et la résolution de la problématique africaine, elle se trouve dans la création de millions d'emplois. Effectivement, que ce soit pour le bonheur des gens qui y restent, ou pour éviter que des gens ne s'en enfuient. Donc dans les deux cas de figure, c'est bien la création d'emplois marchands qui va amener les Africains à aimer rester chez eux, à ne pas vouloir en partir. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, nous, en Europe, où effectivement, si on peut encore accueillir des millions, on ne pourra pas accueillir des dizaines de millions. Donc la solution, elle est africaine. Et des entreprises comme les nôtres, par milliers, bien évidemment, mon entreprise n'est qu'une goutte d'eau, mais si des milliers d'entreprises comme la mienne procèdent de la même façon, ce sont des millions d'emplois qui vont être créés. On a 2500 emplois aujourd'hui sur le continent africain. Donc en 92, quand on s'était installé, c'était zéro. Donc,
et ce sont des expatriés ou des Africains?
Non, ce sont des Africains. Nous avons
à quel pourcent?
Une poignée, nous devons avoir une quarantaine d'expatriés et tout le reste sont des Africains, bien sûr. Alors, Africains, Sud-Africains, Angolais, Marocains, enfin de tout le continent, dans les pays où nous sommes installés. Mais ce qui est important, c'est pas tellement ce que nous sommes aujourd'hui, c'est où nous projetons dans cet avenir africain avec un continent de 2 milliards d'habitants. Tous les projets que nous développons dans notre groupe aujourd'hui sont des projets qui vont énormément générer d'emplois, mais au-delà même de l'emploi, de la formation. Si on parle par exemple de la numérisation, ou de la, enfin, de la digitalisation de la, des documents, de l'archivage.
Qui est le deuxième secteur.
Le deuxième métier que nous exerçons. Aujourd'hui, pour être un archiviste diplômé, vous faites un bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Il y a des vraies formations d'archivistes qui vous donnent accès à la technologie, à la méthode, à la connaissance des documents. Eh bien, toutes ces formations, si on veut progresser sur ces métiers qui sont encore pas développés en Afrique, il va falloir qu'on les assure nous-mêmes. Sinon, nous n'aurons pas les personnels dont nos clients ont besoin. Donc, on va faire de la formation de façon très importante. On va passer des accords avec des universités pour accompagner des formations et prendre des stagiaires. Mais surtout, on va recruter des milliers d'Africains. Parce que vous n'allez pas archiver, numériser, mettre sur les sites Internet des documents en Afrique en les ramenant en Europe. Donc, tout va se faire localement. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, notre contribution à l'emploi, oui, nous allons créer des milliers d'emplois dans notre groupe en Afrique, pour des Africains, et des ETI comme celles que je préside, il y en a des milliers. Donc il suffit que des gens bien intentionnés, comme nous le sommes chez nous, fassent pareil, et on apportera une contribution significative à la problématique que nous connaissons, et à la problématique du continent africain.
Quand on vous écoute, on a un peu l'impression que le développement doit venir de l'extérieur, c'est-à-dire que vous dites des ETI, des entreprises venues de l'extérieur, mais vous ne semblez pas compter, en tout cas dans ce que j'ai compris de votre réponse, sur la création d'entreprises purement africaines.
Non, mais aujourd'hui, c'est moi que vous avez invité, c'est moi que vous interviewez, donc c'est moi qui parle.
Oui.
Mais je suis persuadé que dans un mois, vous allez inviter un patron africain qui a démarré en Côte d'Ivoire et au Sénégal et qui dira la même chose que moi. Donc, qu'importe, je dirais, la nationalité, la couleur de peau, les idées de l'entrepreneur. S'il effectue sa mission de création de richesse et de partage à travers le travail, eh bien, c'est bienvenu, quelle que soit... Et donc, des entreprises comme celle-là, il en existe beaucoup, beaucoup. Les Africains sont de plus en plus entrepreneurs, ont le virus de l'entrepreneuriat et se développent. Et nous avons de très, très belles success stories sur le continent africain, que ce soit des entreprises du Nigeria, de Côte d'Ivoire. Je rencontre beaucoup d'entreprises qui, il y a 10 ans, étaient focalisées sur leur métier, leur pays, qui sont déjà dans 3, 4, 5 pays, qui sont en train de se développer régionalement. Donc ce mouvement, il est global.
Alors, il y a une question dont on parle beaucoup quand on parle d'économie africaine, c'est la question de la transparence fiscale. Beaucoup d'entreprises étrangères sont accusées de faire de l'optimisation. Écoutez ce que disait il y a quelques jours le président du comité Afrique du MEDEF international, Patrick Fondadossa, au micro de Stanislas Daichimier du service économique de RFI.
Vous allez dans un pays, vous devez travailler sous les règles du pays. Il n'est pas question de pratiquer un espèce de rapatriement de dividendes indus ou de l'évasion fiscale de quelque nature que ce soit. D'abord, ce serait suicidaire parce que les entreprises qui font ça se retrouvent en dehors du pays assez rapidement et pour longtemps. Et puis, surtout et avant tout, le pays est souverain pour déclarer, organiser, préparer et mettre en œuvre ensuite sa politique fiscale. Il appartient aux entreprises françaises ensuite de prendre le risque. Veulent-elles aller dans un pays dont elles considèrent qu'effectivement la fiscalité est intéressante, c'est à elles de l'estimer. Mais la fiscalité, en tout état de cause, ne peut pas être une mesure d'ajustement budgétaire de fin d'année. Ça, par contre, c'est vrai, les entreprises françaises en souffrent, puisqu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels la fiscalité est utilisée comme une arme véritablement d'ajustement du budget. Et ça, c'est ça que nous souhaitons combattre.
C'était donc Patrice Fondadossa, le président du comité Afrique du MEDEF international. Question de Frédéric Maury.
Alors, on a entendu le discours très positif de M. Fondadossa, mais on a du mal à croire quand même que des entreprises internationales, pas forcément la vôtre, hein, je parle de manière générale, ne fassent pas de l'optimisation fiscale en Afrique pour une raison simple, c'est que les pays africains eux-mêmes ne sont pas du tout armés pour résister ou pour se battre contre les processus d'optimisation fiscale. Donc, est-ce que vous constatez qu'en effet, il y a quand même de ce côté-là de l'abus de la part de beaucoup de multinationales qui rapatrient des dividendes de manière indue, etc., etc.
Bon, alors je ne peux pas me prononcer pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient françaises ou internationales d'ailleurs, parce que ce n'est pas que le sujet des entreprises françaises, mais des entreprises étrangères installées dans un pays africain, qu'elles soient belges, qu'elles soient britanniques, hollandaises ou américaines. La plupart des entreprises quand même, et la nôtre, sont dans des activités opérationnelles dans un pays. On ne crée pas un bureau ou une plateforme de logistique. Où on s'adresse au marché local, donc on est complètement local. Donc la fiscalité locale s'adresse à tous les acteurs locaux. si vous avez un magasin, si vous avez une usine, vos concurrents seront soumis aux mêmes règles. Donc ça n'a pas d'importance, je dirais, effectivement, qu'il y a des pays comme par exemple la RDC où le taux d'impôt est à 40%. Donc ça reste quand même élevé par rapport à la moyenne mondiale où on est, comme en France, à peu près 30% d'impôt sur les bénéfices. Donc bah, malgré tout, ce pays-là est un pays absolument incroyable, avec un potentiel gigantesque. Donc l'impôt est à 40%, le différentiel de 10% ne va pas dissuader un entrepreneur d'aller investir parce que ce pays qui a le potentiel de devenir à lui seul l'Afrique du Sud et le Zimbabwe réunis en potentiel de richesse.
Ça fait longtemps qu'on dit ça.
Et oui, ben moi je le dis et je pousse toutes mes équipes à investir énormément en RDC malgré les situations qu'on rencontre ici ou là d'instabilité ou d'incertitude politique. Sur le long terme, tout finira par se stabiliser et les gens veulent vivre et bien vivre et ces problèmes-là, il faut les dépasser. Donc malgré cela, on investit énormément malgré un impôt qui est à 40%, qui est plus élevé qu'en Afrique du Sud où on est à 28%. Beaucoup de pays sont à 30, 33%.
Et globalement, la fiscalité est trop élevée en Afrique, ça vous dites? Ou c'est juste le cas de la RDC?
La RDC est élevée. Il y a quelques pays qui sont comme la RDC, mais globalement, on est dans des niveaux qui se situent à ceux de l'Europe. Donc, à quoi rime un rapatriement de résultats d'un pays où vous payez 30% pour aller dans un pays où, en France, où vous payez 30%?
Enfin, sauf qu'en général, ce qui est utilisé par les multinationales évoquées par Jean-Pierre, sans citer nom, mais c'est souvent Maurice, par exemple. C'est-à-dire que Maurice est souvent utilisé comme un hub pour rapatrier des bénéfices qui sont faits ailleurs en Afrique. Qui sont rapatriés à Maurice, où là, pour le coup, on ne paye pas 30% d'impôt sur les bénéfices.
Alors, vous avez raison, mais nous, notre siège, notre schéma juridique est très simple. On a Mobilitas, la maison mère, entreprise familiale française, et ce sont des filiales africaines en direct. On n'a rien entre les deux.
Il n'y a pas de structure basée non, à Jersey.
On n'a pas de structure entre les deux, du tout.
Aux îles Caïmans.
On n'a pas de structure entre les deux, du tout. Donc, si un profit est fait, on paye l'impôt dans le pays, et on remonte ou non le dividende en fonction d'une politique, effectivement, du groupe. En l'occurrence, pour notre cas, nous investissons tellement en Afrique que pour nous, les dividendes et les résultats faits vont nous permettre d'autofinancer les développements futurs. On est là pour jouer le long terme, pas pour avoir des dividendes aujourd'hui, mais pour investir sur 10, 20 ans.
Pas donc, pour avoir du cash.
Ce cash va permettre de réinvestir, de racheter des bâtiments, de créer des structures, de former des cadres. Donc on a besoin de monter, on a une volonté de grimper en termes de part de marché sur le continent. Donc pour l'instant, nous n'avons pas ce besoin de remonter les résultats.
Une petite question pour qu'on sente bien quelle est votre activité. Vous avez combien, par exemple, de camions qui circulent sur les routes africaines?
Alors c'est effectivement, si on compte l'Afrique du Sud qui est un des poids lourds, parce que l'Afrique du Sud à elle seule représente pratiquement 25% ou 23% du PIB du continent africain. Donc notre présence en Afrique du Sud est massive. On est aussi gros en Afrique du Sud qu'on l'est en France en termes de taille. Donc effectivement, on doit avoir l'équivalent de 600 camions qui circulent sur les routes africaines. On a des centaines de milliers de mètres carrés d'entrepôts permettant la logistique, la conservation des biens, le garde-meuble ou l'archivage. Et donc effectivement, on est très très présent dans les marchés locaux.
Dans votre métier, vous parliez d'entrepôt, vous êtes un gros utilisateur des ports africains par définition. Est-ce que vous notez une réelle amélioration, puisque pendant des années là, c'était quand même assez catastrophique. Est-ce que vous notez une nette amélioration des ports africains en termes de délai, en termes de prix, etc.
Pour certains ports et certains pays, on vient de très loin. Donc effectivement, tout en étant médiocre aujourd'hui, on peut être nettement meilleur qu'hier. Je pense.
Est-ce qu'il y a des pays où on est bon?
Il y a des pays où on commence. Alors l'Afrique du Sud, par exemple, des ports comme Durban, oui, effectivement, ça nécessairement ça fonctionne. Il y a beaucoup d'années d'expérience, mais vous prenez l'Angola, avoir des conteneurs qui attendent, des bateaux qui attendent en rade pendant un mois et demi, c'est fréquent. Donc, mais il y a aussi des travaux lourds à faire. On peut pas incriminer simplement la mauvaise organisation des ports. Il y a des travaux d'infrastructures gigantesques à faire qui sont très onéreux et que les États n'arrivent peut-être pas à faire avec la crise actuelle.
Mais on dit qu'ils ont été faits, ces investissements, justement, depuis 10 ans. Vous le sentez ou vous le sentez pas tant que ça?
Si vous posez la question sur l'ensemble du continent africain, ils ont été faits à certains endroits, ils n'ont pas été faits à l'échelle du continent. Donc après, effectivement, quelle est la part de ce qui a été fait et de la part en retard? Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de projets qui sont dans les papiers ou qui sont en cours. Dans la Corne d'Afrique, sur Djibouti, il y a des projets énormes en termes portuaires. Sur la côte d'Afrique occidentale aussi. Je pense qu'il y a des travaux d'infrastructure qui sont encore nécessaires et qui vont nécessiter des dizaines de milliards dans les années à venir. Maintenant, sur le fonctionnement des ports, c'est-à-dire sur la bureaucratie portuaire, donc l'informatisation des ports, les infrastructures terrestres des ports, la formation des personnels, de façon à ce que, enfin, quand un bateau a déchargé, que la marchandise puisse sortir, comme en Europe, en 2-3 jours et non pas en 2-3 semaines, il y a encore énormément à faire, énormément de travail. Donc, on n'y est pas. Si on devait résumer en peu, on n'y est pas.
Alain Taïeb est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Alain Taïeb, président du conseil de surveillance du groupe Mobilitas, spécialisé dans le déménagement international et de plus en plus dans l'archivage physique et numérique. Question de Frédéric Maury.
Et en termes de coûts, on n'a pas parlé du coût, parce qu'on dit souvent que la logistique africaine, non seulement elle est lente, mais elle est beaucoup plus coûteuse qu'ailleurs dans le monde. Vous confirmez, vous qui travaillez partout dans le monde ?
Elle est plus coûteuse parce qu'elle n'est pas efficace, tout simplement. Parce qu'il lui manque de l'efficacité.
Il n'y a pas des situations de rente de certains opérateurs qui facturent des prix beaucoup plus élevés parce qu'ils sont en situation de monopole ?
C'est une combinaison des deux. Je pense que ce retard, certains vont peut-être éviter de lutter contre pour le conserver parce que ça crée des situations de rente. Je partagerai ce point de vue dans certains cas, oui.
Le groupe Bolloré, par exemple ?
Non, le groupe Bolloré est un groupe très dynamique et très, très je dirais, entreprenant. Je ne le vois pas avec cet état d'esprit. Je veux dire qu'ils ont une vision long-termiste de l'Afrique et ce que vous décrivez, c'est une vision court-termiste. Et je ne les vois pas du tout regarder leurs lacets, je les vois plutôt regarder 20 ans devant eux.
Il y a beaucoup de groupes français qui ont encore ou d'entrepreneurs français installés en Afrique qui ont des visions court-termistes ?
Oui, il y en a encore. Mais de moins en moins. Je vais vous donner un exemple, si je peux me permettre.
Oui, bien sûr.
Les Français qui ont reproche de commencer à se désintéresser de l'Afrique au moment où elle part, après avoir attendu. Eh bien, effectivement, j'ai été à une réunion des conseils du commerce extérieur, dont je fais partie, au Nigeria. Et on a amené tous les conseils du commerce extérieur français de la région à une réunion d'entrepreneurs français installés et au Nigeria. Eh bien, 95% des gens qui étaient là n'avait jamais envisagé de créer une structure au Nigeria ou au Ghana. Donc les Français étaient restés dans leur zone de confort francophone, où les affaires marchaient bien, où effectivement leurs produits étaient bien acceptés, et ne s'étaient pas projetés dans ce monde futur avec un Nigeria proche des pays d'Afrique occidentale, dont le PIB représente à lui seul la somme des PIB des pays francophones alentour. Donc effectivement, ce genre de situation, eh bien, les gens en prennent conscience et les mouvements commencent à avoir lieu. Les entrepreneurs français traditionnels de l'Afrique francophone commencent enfin à comprendre qu'il y a une Afrique aussi anglophone, une Afrique lusophone, et commencent un petit peu à bouger.
C'est un manque d'ambition, un manque de compréhension du monde, de ces entrepreneurs français ?
Un manque de connaissances, un manque d'anticipation, un manque d'ambition peut-être, je dirais, dans certains cas. Bon, ce sont des générations qui ont vieilli. Aujourd'hui, un entrepreneur qui a 50, 60 ans, voit effectivement, qui a fait toute sa carrière en Côte d'Ivoire et au Sénégal, voit les pays anglo-saxons comme des pays difficiles. Parce que s'il y va lui-même, l'entrepreneur, il va avoir du mal, malgré son talent et son expérience, à vendre ses produits et son savoir dans une langue qui n'est pas la sienne. Alors, aller faire comprendre qu'il existe des jeunes Français capables de parler en anglais, c'est ce que nous avons fait. Nous avons envoyé des cadres qui parlaient anglais dans tous les pays d'Afrique anglophone.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de concrétisation ? C'est-à-dire que l'intérêt des Français, on le voit. C'est vrai qu'il y a dans les délégations, il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui vont là-bas. Mais finalement, les projets réels, on les voit moins. C'est-à-dire que les groupes qui opèrent là-bas, c'est un peu toujours les mêmes. Et les nouveaux, ils tardent, ils sont lents. Alors que finalement, dans les autres pays émergents, on a une rapidité d'exécution qui est beaucoup plus importante. Est-ce que vous constatez cette lenteur ?
Je suis entièrement d'accord avec vous. Effectivement, il n'y a pas suffisamment d'entreprises fraîches qui viennent se développer sur le continent africain, d'entreprises nouvelles. Alors, je suis le président de la commission d'appui aux PME du CNCCEF, et donc mon travail bénévole, c'est de pousser...
Donc ça, c'est les conseillers du commerce extérieur.
De pousser des milliers d'entreprises françaises qui ont du savoir en leur disant, allez tenter l'aventure sur ce continent. Il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup d'attentes.
Qu'est-ce qui les bloque, à votre avis ?
Je pense que, bon, on va rentrer dans le commerce extérieur de la France. On a un gros déficit, comme vous le savez. Et donc, on n'a qu'à peine 100, 110 000 PME françaises qui sont à l'international en général, contre 300 000 en Italie et 400 000 en Allemagne. Donc, on a un déficit d'entrepreneuriat international en règle générale. Et à l'intérieur de cela, de ce déficit, on y retrouve l'Afrique aussi.
Le développement de l'économie africaine, Alain Taïeb, il passe beaucoup par ce qu'on appelait il y a quelques années la nouvelle économie, qui ne l'est plus tellement à force d'être nouvelle. Les start-up se multiplient en Afrique. Au Maroc, 6 d'entre elles viennent d'être récompensées à Casablanca dans le cadre du concours start-up de l'année 2017. Ces jeunes pousses évoluent dans les domaines de l'agriculture ou de la finance. Et c'est un reportage signé Sarah Doublier à Casablanca.
La salle est comble dans cet hôtel de luxe de la côte casablancaise. Parmi les participants, les finalistes du concours, mais aussi et surtout les représentants locaux de grandes firmes internationales. Une opportunité pour le Guinéen Aguibou Barry, lauréat du coup de cœur du jury et inventeur d'une pompe hydrique à usage domestique.
Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de contacts. Il y a des nouvelles idées qui se créent. Parce que là, nous voudrons vraiment créer d'autres systèmes adaptés à cette pompe pour pouvoir irriguer à des centaines d'hectares.
La mise en relation entre start-up et grands groupes industriels, l'objectif principal du magazine collaboratif Bonjour Idée, initiateur du concours, son fondateur, Kossi Asdo.
On a créé un annuaire éditorialisé, ça veut dire que les start-up racontent leur histoire. Il y a des données qui sont plutôt techniques, qui intéressent les grands groupes et d'autres entreprises.
Mettre en place des solutions pour et par les populations concernées. Pour Mohamed Ezouak, fondateur du portail d'information en ligne Yabiladi dédié à la diaspora marocaine, cette catégorie de population a un grand rôle à jouer dans le développement de l'Afrique.
Ils ont cette capacité de détecter les besoins d'une région et d'une catégorie de la population et ils ont aussi cette attache pour le pays. C'est ce qui permet de résister aux difficultés qui sont inhérentes à ce continent et de pouvoir proposer des projets avec de la valeur, pas seulement pour remplir les poches de gros actionnaires à l'international.
Les innovations du continent africain sont scrutées de près par les firmes internationales qui voit en ces start-upers un véritable incubateur pour le développement du continent.
C'est un reportage signé Sarah Doublier à Casablanca. Les principaux mécènes de ce concours, c'est des entreprises françaises, en particulier Engie ou la SNCF. Vous participez à ce genre d'activité, le mécénat de jeunes entreprises africaines qui veulent se développer dans les nouvelles technologies de l'information ?
On n'est pas partie prenante de cette expérience que vous venez de citer avec ce témoignage. On est dans des opérations de mécénat sur l'Afrique, bien évidemment, mais pas celle-ci en particulier. Par contre, nous sommes complètement... concerné par l'évolution de cette économie numérique, bien que transporteur, entreprise de déménagement international, entreprise d'archives qui a des millions de documents à gérer, on se demande où est l'économie numérique dans nos métiers. Eh bien, effectivement, nous aussi, nous avons notre porte d'accès sur le numérique à travers un exemple qui va rejoindre ce témoignage, si je peux me permettre. Nous sommes une entreprise africaine aujourd'hui. Nous vivons au rythme de l'Afrique, même si le siège est français. Notre cœur bat avec le cœur de l'Afrique ou pour l'Afrique. Et donc, conscient de ces besoins qui sont énormes dans tous les domaines, y compris dans le numérique, eh bien, nous avons trouvé une entreprise à Bordeaux qui était très française, uniquement française, qui s'appelait Arcanum, et son rayon d'action, c'était la France depuis 15 ans. Que faisait cette entreprise? Eh bien, elle numérisait avec des appareils extrêmement sophistiqués, des scanners coûtent 1000 ou 5000 euros, là, leur scanner coûte 150 000 à 200 000 euros, tout ce qui est très précieux, des livres qui ont plusieurs siècles, des plans, des documents qui constituent le patrimoine de la France, et la France est un pays à patrimoine gigantesque, et cette technologie que cette entreprise a développée, elle était limitée à la France. Donc on s'est dit, plutôt que de réinventer quelque chose qui existe, l'Afrique a besoin de leur technologie. Eux n'avaient aucune connaissance de l'Afrique. On a donc racheté cette entreprise, Arcanum, à Bordeaux, et on s'est immédiatement lancé sur le continent africain pour la numérisation du patrimoine africain. Donc la numérisation, c'est quoi? C'est la protection des biens, les manuscrits de Tombouctou qui ont plusieurs siècles.
Je vais vous en parler, oui. Vous les avez numérisés?
On les a numérisés, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est protégé, si ça venait à être détruit pour une raison ou une autre, c'est protégé, c'est numérisé, mais surtout, grâce à la numérisation, c'est l'accès au grand public. L'accès à des documents, des dessins, des livres, que ce soit dans les bibliothèques, dans les musées, donc à l'ensemble de la population du continent, ou de l'extérieur. Donc c'est la protection du patrimoine, et ce marché pour nous, il est infini. On est donc parti prendre une expertise ailleurs, et notre travail pour les 10 années à venir, c'est de développer cette activité sur l'ensemble du continent, et nous sommes très très bien perçus par les musées, par les bibliothèques, par les gouvernements, parce qu'effectivement personne n'avait pensé le faire avant nous.
Vous parliez de scanners qui valaient 150 000 à euros. 200 000 euros, c'est ça? La numérisation par exemple pour Tombouctou, elle s'est faite sur place ou elle s'est faite à Bordeaux?
On a fait ça sur place.
Sur place, donc transporter...
On amène les appareils, absolument.
Mais quand?
Il y a 3 ans de cela à peu près. Alors c'est une partie, on n'a pas tout numérisé, on a numérisé des manuscrits de privés qui appartenaient à des gens et qui ont voulu les protéger. Tout n'a pas été malheureusement protégé, il y a une partie qui a été détruite avec les événements que l'on connaît. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité de préserver le patrimoine dans l'absolu, mais également eu égard à certaines situations d'instabilité qui peuvent mettre en danger. Alors des monuments, ça on peut rien faire, mais tout ce qui est littérature, tout ce qui est dessin... Parce qu'on peut effectivement numériser un document qui fait 1 mètre carré ou 2 mètres carrés. Ça peut être des toiles, ça peut être des schémas, ça peut être des plans de mines qui ont plusieurs siècles. Ça peut être aussi toute l'histoire. On a signé le contrat avec le gouvernement du Zimbabwe pour numériser toute l'histoire de leur guerre d'indépendance. Tous leurs documents patrimoniaux de façon à pouvoir, un, les protéger. Et demain, ça sera leur choix de les rendre accessibles au grand public.
Il y a beaucoup de pays qui vous demandent ça?
On est en train de démarcher, effectivement, et beaucoup de pays sont intéressés par cette approche de la dématérialisation, je dirais, de leur histoire.
Merci Alain Taïeb d'avoir été le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Cette émission, malheureusement, est déjà terminée. On pourrait parler encore très longtemps de la numérisation des manuscrits de Tombouctou, des archives du Zimbabwe. Vous pouvez retrouver la vidéo de cette émission sur les sites internet de RFI de Jeune Afrique. Guillaume Munier a réalisé cette émission, qu'il a également mise en ondes et en images. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.